Donc, le message que j'ai choisi de partager avec vous ce matin, comme je vous disais, n'est pas de moi. Il a même déjà quelques années, puisque c'est issu d'un livre de Martin Luther King paru en 1963. Peut-être que vous vous rappelez de cette année, mais moi pas. Et je vous lis juste quelques mots de la préface pour situer un peu. Le pasteur Luther King reste aujourd'hui dans la mémoire universelle comme ce prophète de la justice sociale et de la paix entre tous les hommes, indépendamment de leur couleur de peau. Mais en 1963, au moment où paraît La force d'aimer, rien n'était acquis. Personne ne pouvait prévoir l'ampleur du changement, ni imaginer qu'il aboutirait une génération plus tard à l'élection de Barack Obama, premier président afro-américain des États-Unis, en 2008. Dans ce temps d'incertitude et de conflit, dans le clair-obscur des rapports de force, c'est sur le terrain des valeurs que tout s'est joué. En matière de démographie ou de moyens de coercition, la partie était bien inégale. Perdue d'avance pour les militants noirs, mais en optant systématiquement pour une approche non violente, inscrite dans l'idéal chrétien de l'amour du prochain, Martin Luther King et ses amis ont réveillé et nourri des forces invisibles autrement puissantes que les baïonnettes ou les mâchoires des chiens policiers. Au fil des manifestations réprimées, c'est à une véritable mise en scène du drame du salut chrétien qu'ont assisté, ébahis, des millions de téléspectateurs états-uniens. Dans la mauvaise conscience de l'Amérique, les victimes non violentes des foules hostiles s'apparentaient de plus en plus nettement à la figure du Christ, lui aussi victime pacifiste et aimante d'une violence aveugle. Voilà. Ça rejoint aussi ce qu'on vient de chanter. Cette croix n'a pas été uniquement réservée à Christ. Il a bien averti ses disciples que ferait aussi partie de leur chemin. Donc,
il faut que tu appuies si tu veux enregistrer.
Je crois que ça enregistre. Oui. Donc ça s'intitule « L'amour en acte ». Et donc ça se base sur ce verset que je vous ai lu tout à l'heure dans Luc chapitre 23, verset 34. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». La grandeur d'âme de Jésus est rarement exprimée dans le Nouveau Testament avec plus de clarté et de solennité que dans ses paroles tombées de la croix « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est le sommet de l'amour. Nous ne comprendrons pleinement le sens profond de la prière de Jésus qu'après avoir remarqué que le texte débute par le mot « alors ». Au verset précédent, nous lisons « Arrivé au lieu-dit du calvaire, ils l'y crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Alors, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Alors qu'il allait s'enfoncer dans les abîmes d'une agonie lancinante. Alors que l'homme s'était ravalé au niveau le plus bas. Alors qu'il allait mourir d'une mort ignominieuse. Alors que les mains perverses de la créature avaient osé crucifier le Fils unique du Créateur. Alors, Jésus dit, pardonne-leur. Cet « alors » aurait fort bien pu être tout autre. Il aurait pu dire « Père, tire vengeance d'eux » ou « Père, déchaîne la foudre puissante de ta justice, de ta juste colère et détruis-les » ou encore « Père, ouvre les écluses de la justice et permet à l'avalanche étourdissante de la rétribution de déferler sur eux. » Mais rien de tout cela ne fut sa réponse. Bien que soumis à une agonie indicible, souffrant d'une douleur atroce et méprisé et rejeté, néanmoins il s'écria « Père, pardonne-leur ». Retenons les deux leçons fondamentales qui peuvent être tirées de ce texte. Première leçon fondamentale. En premier lieu, c'est une merveilleuse expression de l'habileté de Jésus à joindre parole et action. L'une des grandes tragédies de la vie est que rarement les hommes jettent un pont entre la pratique et la théorie, entre l'agir et le dire. Beaucoup d'entre nous sont tragiquement divisés par une schizophrénie tenace. D'une part, nous professons fièrement certains principes, sublimes et nobles, mais d'autre part, nous pratiquons pitoyablement l'exacte antithèse de ces principes. Trop souvent, nos vies se caractérisent par la vigueur du credo et l'anémie de l'action. Nous discourons éloquemment sur notre engagement aux principes du christianisme, mais nos vies sont saturées des pratiques du paganisme. Nous proclamons notre engagement à la démocratie, mais nous pratiquons lamentablement l'exact opposé du credo démocrate. Nous parlons de la paix avec patience et nous préparons assidûment la guerre. Nous faisons des plaidoyers fervents pour la voie haute de la justice et nous marchons résolument sur la voie basse de l'injustice. Cette dichotomie étrange, ce fossé douloureux entre ce qui doit être et ce qui est, représente le côté tragique du pèlerinage terrestre de l'homme. Mais dans la vie de Jésus, nous découvrons que le pont est jeté. Jamais dans l'histoire, il n'y eut d'exemple plus sublime d'unité entre la parole et l'action. Durant son ministère dans les villages ensoleillés de Galilée, Jésus parla avec passion du pardon. Cette doctrine étrange mit en éveil l'esprit curieux de Pierre. « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Donc dans Matthieu 18. Pierre voulait être fidèle à la loi et à la statistique. Mais Jésus répondit en affirmant que le pardon est sans limite. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En d'autres termes, le pardon n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Un homme ne peut pardonner jusqu'à 490 fois sans que le pardon s'intègre à la structure même de son être. Le pardon n'est pas un acte occasionnel, c'est une attitude permanente. Jésus enseignait aussi à ses disciples à aimer leurs ennemis et à prier pour ceux qui les méprisaient. Aux oreilles de beaucoup, cet enseignement sonnait comme une musique étrange venue d'un pays inconnu. On leur avait appris à aimer leurs amis et à haïr leurs ennemis. Leur vie avait été orientée vers la réparation, selon la tradition longtemps honorée de la loi du talion. Et Jésus leur apprend que c'est seulement par un amour créateur envers leurs ennemis qu'ils peuvent être les enfants de leur Père des cieux, et aussi que l'amour et le pardon sont des nécessités absolues pour la maturité spirituelle. Le moment de l'épreuve arrive. Le Christ, l'innocent Fils de Dieu, est étendu sur une croix dressée en une douloureuse agonie. Quelle place y a-t-il encore là pour l'amour et le pardon ? Comment Jésus réagira-t-il ? Que va-t-il dire ? La réponse à ces questions éclate avec une splendeur majestueuse. Jésus redresse sa tête couronnée d'épines et s'écrie en ces paroles aux proportions cosmiques « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est l'heure la plus belle de Jésus, c'est sa réponse céleste à son rendez-vous terrestre avec le destin. Nous percevons la grandeur de cette prière en la confrontant avec la nature. Dans la finalité de sa structure propre, impersonnelle, la nature ne pardonne pas. La libellule, aussi belle soit-elle, ne pardonne pas. C'est aussi une chasseuse redoutable. Devant les appels suppliants de l'homme, surpris par un ouragan furieux ou le cri d'angoisse du maçon tombant de l'échafaudage, la nature n'exprime qu'une indifférence froide, calme et sans passion. Elle doit rester éternellement fidèle à ses lois fixes et immuables. Lorsque ses lois sont violées, elle n'a d'autre alternative que de suivre inexorablement sa voie d'uniformité. La nature ne pardonne pas, elle ne peut pas pardonner. Ou bien comparer la prière de Jésus avec la lenteur de l'homme à pardonner. Nous vivons selon une philosophie qui veut que la vie consiste à venger ou à sauver la face. Nous nous inclinons devant l'autel de la revanche. À Gaza, Samson aveugle prie avec ferveur pour ses ennemis. Ça se passe à Gaza. Samson aveugle prie avec ferveur pour ses ennemis, point de suspension, mais pour leur destruction. La beauté potentielle de la vie humaine est constamment avilie par le retour incessant du rêve humain de vengeance. Ou bien comparer encore la prière avec une société tout aussi peu prompte à pardonner. Dans la société, elle doit avoir ses étalons et ses normes. Elle doit avoir ses contrôles légaux, ses freins juridiques. Ceux qui tombent en dessous des normes et ceux qui enfreignent les lois sont souvent abandonnés dans un abîme sombre de condamnation et n'ont nul espoir d'une deuxième chance. Interrogez une jeune femme qui, après un moment de passion débordante, est devenue mère d'un enfant illégitime. Elle vous dira que la société est lente au pardon. Interrogez un fonctionnaire qui, dans la négligence d'un moment, a trahi la confiance du public. Il vous dira que la société est lente au pardon. Allez dans une prison et interrogez ses occupants. qui ont écrit des lignes honteuses sur les pages de leur vie. Par-delà les barreaux, ils vous diront que la société est lente au pardon. Poussez jusqu'au quartier des condamnés à mort et parlez avec les victimes tragiques de la criminalité. Tandis qu'ils se préparent à leur marche pathétique vers la chaise électrique, leur plainte désespérée est que la société ne pardonne pas. La peine de mort est l'affirmation finale par laquelle la société déclare qu'elle ne pardonne pas. Telle est l'histoire constante de l'humanité. Les océans de l'histoire sont agités par les vagues incessantes de la vengeance. L'homme ne s'est jamais élevé au-dessus de l'injonction de la loi du talion, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Dans Exode, chapitre 21. En dépit du fait que la loi de la vengeance ne résout aucun problème social, les hommes continuent à se plier à ces impératifs désastreux. L'histoire est encombrée des ruines des nations et des individus qui ont suivi ce chemin illusoire. Du haut de la croix, Jésus a proclamé solennellement une loi plus haute. Il savait que la vieille philosophie de l'œil pour œil laisserait chacun aveugle. Il ne cherchait pas à vaincre le mal par le mal, il vainquit le mal par le bien. Crucifié par la haine, il répondit par l'amour. Quelle leçon magnifique! Les générations peuvent naître et disparaître. Les hommes continuaient à adorer le dieu de la vengeance et à s'incliner devant l'autel de la revanche, mais toujours et toujours un rappel lancinant nous viendra de cette noble leçon du calvaire. Seule la bonté peut extirper le mal, seul l'amour peut vaincre la haine. Deuxième enseignement fondamental, la prière de Jésus en croix nous donne une deuxième leçon. C'est une expression de la conscience qu'a Jésus de l'aveuglement intellectuel et spirituel de l'homme. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Leur mal était l'aveuglement. Leur besoin était la lumière. Nous devons reconnaître que Jésus ne fut pas fixé à la croix par le péché seul, mais aussi par l'aveuglement. Les hommes qui crièrent « Crucifie-le » étaient moins mauvais qu'aveugles. La populace railleuse qui bordait les routes du calvaire était composée d'hommes plus aveugles que méchants. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Quelle tragédie! L'histoire abonde en témoignages de cette tragédie honteuse. Il y a des siècles, un sage appelé Socrate fut contraint à boire de la ciguë. Les hommes qui réclamèrent sa mort n'étaient pas des hommes mauvais avec du sang de démon dans les veines. Au contraire, c'étaient de sincères et respectables citoyens de la Grèce. Ils crurent vraiment que Socrate était athée parce que son concept de Dieu avait une profondeur philosophique, bien au-delà des concepts traditionnels. Socrate fut mis à mort non par méchanceté, mais par aveuglement. Saül n'était pas mal intentionné lorsqu'il persécutait les chrétiens. C'était un dévot sincère et consciencieux dans la foi d'Israël. Il pensait être dans la bonne voie. Il persécuta les chrétiens non parce qu'il manquait de droiture, mais parce qu'il manquait de lumière. Les chrétiens qui s'engagèrent dans la voie de persécution infâme et d'inquisition honteuse n'étaient pas des hommes mauvais, mais des hommes mal guidés. Les ecclésiastiques qui crurent avoir mission divine de s'opposer au progrès de la science sous la forme de la révolution copernicienne ou sous celle de la théorie darwinienne de l'évolution n'étaient pas portés au mal, mais mal informés. Et ainsi, les paroles du Christ en croix sont profondément gravées dans l'une des plus inexprimables tragédies de l'histoire. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet aveuglement tragique s'exprime de nos jours de façon multiple et sinistre. Certains estiment encore que la guerre est la réponse aux problèmes du monde. Ils ne sont pas mauvais. Au contraire, ce sont des citoyens bons et respectables dont les idées sont drapées dans les plis du patriotisme. Ils parlent d'équilibre de la terreur. Ils croient sincèrement que la course aux armements aura des conséquences plus bénéfiques que maléfiques. Ils réclament donc avec passion des bombes plus grosses, des réserves nucléaires plus importantes, des engins balistiques plus rapides. La sagesse née de l'expérience pourrait nous dire que la guerre est surannée. Il y a eu peut-être un temps où la guerre faisait figure de bien négatif en empêchant l'expansion et le développement d'une puissance mauvaise. Mais la force destructive des armes modernes élimine même cette possibilité que la guerre puisse servir de bien négatif. Si nous admettons que la vie vaut d'être vécue, et que l'homme a le droit de survivre, nous devons trouver une alternative à la guerre. À une époque où les véhicules spatiaux foncent dans le cosmos et où les missiles guidés tracent leur courbe mortelle dans la stratosphère, Aucune nation ne peut prétendre à la victoire dans une guerre. Une guerre dite limitée ne laisserait qu'un héritage catastrophique de souffrances humaines, de désordres politiques et de désillusions spirituelles. Une guerre mondiale, Dieu nous en préserve, ne laisserait que du feu couvant sous la cendre, en témoignage muet d'une espèce humaine que sa folie aurait conduite à une mort prématurée. Il y a aussi ceux qui sincèrement croient que le désarmement est un mal et la négociation internationale est une abominable perte de temps. Notre monde est menacé par la sinistre perspective de l'anéantissement atomique parce que trop nombreux sont encore ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Notez aussi comment la vérité de ce texte se révèle dans les relations raciales. L'esclavage en Amérique a été perpétué non seulement par la malice humaine, mais aussi par l'aveuglement humain. En vérité, la cause fondamentale du régime esclavagiste peut, dans une large mesure, être attribuée aux facteurs économiques. Des hommes se sont convaincus qu'un régime économiquement aussi profitable devait être moralement justifiable. Ils ont formulé et élaboré des théories de supériorité raciale. Leurs rationalisations ont drapé des faussetés évidentes dans les vêtements superbes de la rectitude. Cette tragique tentative pour donner une sanction morale à un système économiquement profitable a donné naissance à la doctrine de la suprématie blanche. La religion et la Bible ont été citées pour cristalliser le statu quo. On a fait appel à la science pour prouver l'infériorité biologique du nègre. La logique philosophique elle-même a été manipulée pour donner une crédibilité intellectuelle au système de l'esclavage. Quelqu'un a mis l'argument de l'infériorité du nègre en une belle formule de syllogisme aristotélicien. Tous les hommes sont faits à l'image de Dieu. Or, comme chacun sait, Dieu n'est pas un nègre, donc le nègre n'est pas un homme. Des hommes ont donc adroitement combiné les données de la religion, de la science et de la philosophie pour appuyer la doctrine de la suprématie blanche. Bientôt, cette idée se trouva imprimée dans chaque manuel et prêchée du haut de pratiquement toutes les chaires. Elle devint partie intégrante de la culture, et des hommes ont alors embrassé cette philosophie non plus comme la rationalisation d'un mensonge, mais comme l'expression d'une vérité dernière. Ils en sont arrivés à croire sincèrement que le noir est par nature inférieur et que l'esclavage a été voulu par Dieu. En 1857, le système de l'esclavage a bénéficié de son plus grand support légal grâce aux délibérations de la Cour suprême des États-Unis dans le jugement Dred Scott. La Cour affirma que le noir n'a aucun droit, que le blanc soit tenu de respecter. Les juges qui rendirent ce jugement n'étaient pas des hommes pervers. Au contraire, c'étaient des hommes respectables et dévoués. Mais ils étaient victimes d'aveuglement spirituel et intellectuel. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Tout le régime de l'esclavage fut perpétué en grande partie par des personnes sincères, mais spirituellement ignorantes. Cet aveuglement tragique se retrouve aussi dans la ségrégation raciale, cette proche cousine de l'esclavage. Quelques-uns des plus ardents défenseurs de la ségrégation sont sincères dans leurs croyances et sérieux dans leurs motivations. Bien que certains hommes ne soient ségrégationnistes que pour des raisons d'opportunités politiques et d'avantages économiques, toute la résistance à l'intégration n'est pas le combat juste de bigots professionnels. Des gens pensent que leur effort pour maintenir la ségrégation est ce qu'il y a de mieux pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour la nation. Beaucoup fréquentent les églises et sont enracinés dans la foi religieuse de leur mère et père. Pressés de justifier religieusement leurs convictions, ils soutiendront même que Dieu fut le premier ségrégationniste en disant « Les oiseaux rouges et les oiseaux bleus ne volent pas ensemble ». Leur vue sur la ségrégation, insiste-t-il, peuvent être rationnellement expliquées et moralement fondées. Pressés de justifier leur croyance en l'infériorité du noir, ils se tournent vers quelques écrits pseudo-scientifiques et soutiennent que le cerveau du noir est plus petit que celui du blanc. Ils ne savent pas ou ils refusent de savoir que l'idée d'une race inférieure ou supérieure a été réfutée par la plus grande évidence, par la science anthropologique. De grands anthropologues s'accordent pour dire que s'il peut y avoir à l'intérieur de chaque race des individus supérieurs ou inférieurs, il n'y a pas de race supérieure ou inférieure. Et les ségrégationnistes refusent de reconnaître que la science a démontré qu'il y a quatre groupes sanguins et que ces quatre groupes se retrouvent à l'intérieur de n'importe quel groupe racial. Ils croient aveuglément à la valeur éternelle d'un mal appelé ségrégation et à la vérité intemporelle d'un mythe appelé suprématie blanche. Quelle tragédie! Des millions de Noirs ont été crucifiés par un aveuglement des consciences. Avec Jésus en croix, nous devons regarder nos oppresseurs avec amour et dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » De tout ce que j'ai essayé de dire, il doit maintenant ressortir que la sincérité et la conscience en elles-mêmes ne suffisent pas. L'histoire a prouvé que ces nobles vertus peuvent dégénérer en vices tragiques. Rien au monde n'est plus dangereux que la sincérité dans l'ignorance et la stupidité dans la conscience. Shakespeare a écrit « Car dans les choses les plus douces, car les choses les plus douces tournent allègres et... » Je recommence. « Car les choses les plus douces tournent allègres dans leurs actes. L'odeur des lys pourris est pire que celle de la mauvaise herbe. » En tant que première gardienne morale de la communauté, l'Église doit implorer les hommes d'être bons et bien intentionnés. Elle doit exalter les vertus qui nous font un cœur d'enfant et une conscience délicate. Mais quelque part en cours de route, l'Église doit rappeler aux hommes que le défaut d'intelligence, de bonté et de conscience peut devenir une force brutale menant à de nombreuses et honteuses crucifixions. Jamais elle ne doit se lasser de rappeler aux hommes qu'ils ont la responsabilité morale d'être intelligents. Ne devons-nous pas admettre que l'Église a souvent négligé cette exigence morale d'enseignement? Il lui est arrivé de parler comme si l'ignorance était une vertu et l'intelligence un crime. Dans son obscurantisme, son étroitesse d'esprit et sa résistance à une vérité nouvelle, elle a souvent encouragé inconsciemment ses fidèles à mépriser l'intelligence. Mais si nous revendiquons le nom de chrétien, nous ferons mieux d'éviter l'aveuglement intellectuel et moral. Tout le Nouveau Testament nous rappelle la nécessité de la connaissance. Il nous est commandé d'aimer Dieu non seulement de tout notre cœur et de toute notre âme, mais aussi de tout notre esprit. Après avoir noté l'aveuglement de beaucoup de ses adversaires, l'apôtre Paul déclare « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence » dans Romains 10. Sans cesse, la Bible nous rappelle le danger du zèle sans la science et de la sincérité sans l'intelligence. Nous avons donc à la fois mission de vaincre le péché et mission de vaincre l'ignorance. L'homme moderne a rendez-vous avec le chaos. La cause en est pour sa part sa malice, pour une autre part sa stupidité. Si la civilisation occidentale, comme 24 autres avant elle, continue à dégénérer jusqu'à ce qu'elle tombe sans espoir dans un abîme sans fond, la cause n'en sera pas uniquement son indéniable culpabilité, ce sera aussi son aveuglement effrayant. Et si la démocratie américaine progressivement se désintègre, ce sera dû autant à un manque de connaissances qu'à un manque de recherche de la justice. Si l'homme moderne continue à flirter résolument avec la guerre et transforme, le cas échéant, son habitat terrestre en un enfer que Dante lui-même n'eût pas imaginé, ce sera le résultat d'une malice pure et tout autant d'une pure stupidité. Ils ne savent pas ce qu'ils font, dit Jésus. L'aveuglement était leur trouble habituel. Et le nœud de la question est ici. Nous désirons être aveugles. Contrairement à la cécité physique, quand on est aveugle, qui d'ordinaire est le résultat de forces naturelles échappant au contrôle des individus, l'aveuglement intellectuel et moral est un dilemme que l'homme s'inflige à lui-même par son usage tragiquement mauvais de la liberté à son incapacité à utiliser pleinement son esprit. Un jour, nous apprendrons que jamais le cœur ne peut être totalement en ordre si la tête est totalement en désordre. Ce qui ne veut pas dire que la tête peut être en ordre si le cœur ne l'est pas. Ce n'est que par l'union de la tête et du cœur, autrement dit de l'intelligence et de la bonté, que l'homme peut atteindre à l'épanouissement de sa vraie nature. Attention, cela ne signifie pas non plus qu'il faut être un philosophe ou avoir une formation universitaire poussée pour réaliser une vie bonne. Je connais beaucoup de gens à l'instruction limitée qui sont étonnants d'intelligence et de perspicacité. La vocation à l'intelligence est un appel simplement à l'ouverture d'esprit, au jugement sain, à l'amour de la vérité. C'est un appel à s'élever au-dessus de la stagnation, de l'étroitesse d'esprit, au-dessus de la paralysie de la crédulité. Il ne faut pas être grand clerc pour avoir l'esprit ouvert, ni académicien subtil pour entreprendre une recherche persévérante de la vérité. La lumière est venue dans le monde. Une voix qui crie à travers les âges invite les hommes à marcher dans la lumière. La vie terrestre devient une tragique élégie cosmique si l'homme ne prend pas garde à cette voix. Ce jugement, dit Jean, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, dans son prologue au chapitre 3. Jésus ne se trompait pas sur les hommes qui le crucifiaient. Il ne savait pas ce qu'il faisait, il souffrait d'un aveuglement terrible. Chaque fois que je regarde vers la croix, je me rappelle la grandeur de Dieu et la puissance rédemptrice de Jésus-Christ. Je me souviens de la beauté de l'amour dans le sacrifice et de la majesté du service indéfectible de la vérité. Ce qui me fait dire avec John Boring, « Dans la croix du Christ, je me glorifie, dominant les débris du temps. Toute la lumière de l'histoire sacrée entoure son fait sublime. Ce serait merveilleux si, moi aussi, je regardais la croix et ne ressentais que cette réaction sublime. » Mais de l'une ou de l'autre façon, je n'arrive jamais à détourner mes yeux de la croix sans comprendre aussi qu'elle symbolise un mélange étrange de grandeur et de petitesse, de bien et de mal. Quand je contemple cette croix dressée, je pense à la puissance illimitée de Dieu, mais aussi à la sordide faiblesse de l'homme. Je pense à l'éclat du divin, mais aussi au poids de l'humain. Je pense au Christ en sa perfection, à l'homme en son abjection. Nous devons voir dans la croix le symbole magnifique de l'amour vainqueur de la haine et la lumière victorieuse des ténèbres. Mais en proclamant cette glorieuse affirmation, n'oublions jamais que notre Seigneur et Maître fut cloué à la croix par l'aveuglement des hommes. Ceux qui le crucifièrent ne savaient pas ce qu'ils faisaient.